Amen, merci. Est-ce que tu peux projeter la première diapo, s'il te plaît, Lauriane? Est-ce que vous voyez bien de quoi il s'agit? Alors, on voit un militaire qui est en train de préparer une tactique. On voit un plan, tout ça, comment attaquer, comment reprendre quelque chose. On ne sait pas de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas, voilà l'exemple d'une tactique militaire. Puis là, à côté, on voit une maison en cours de construction avec tous les plans, les outils, voilà, on est en train de préparer cette maison. C'est un projet de construction de maison. Ça, c'est un peu pour illustrer les projets, les défis qui viennent jalonner toute notre vie. Notre vie, elle est faite de choix, puis elle est faite de projets et de défis qui peuvent être divers. Ça peut être un plan de carrière pour le travail, ça peut être un projet d'éducation des enfants, soit quelque chose qui est précis, soit c'est quelque chose qui est sur des années. Ça peut être le défi face à une maladie. Comment est-ce que, avec le projet de guérir ou au moins de vivre au mieux face à ce défi, ça peut être la volonté de changer d'un comportement qui est problématique dans nos vies et qui, excusez-moi du terme, nous pourrit la vie. Ça peut être des projets aussi communautaires, des projets dans une entreprise pour arriver voilà, à telle stratégie, tel produit. Ça peut être aussi des projets d'église. Dans l'église, il y a différents projets. Il y a des projets qui sont à court terme. Par exemple, un week-end d'évangélisation, une semaine de jeûne et prière. Ça peut être des projets qui engagent sur plusieurs années, comme la recherche d'un local. Pour qui, pourquoi? Voilà, il y a différents projets, différents défis. Et puis d'ailleurs, ces projets dont je parle à la fin, ça comporte aussi de multiples défis à pouvoir vivre ensemble, à pouvoir marcher ensemble dans la même direction. À autant de projets et de défis, et on a chacun les nôtres. Hein. Il y en a qu'on a ensemble, il y en a qu'on a seul, avec notre famille. Et la question qui se pose, c'est comment je vais arriver du point A au point Z, en passant par les différentes étapes. Comment est-ce que je vais arriver au bout, mener à bien ce projet? Comment je vais arriver au bout de ce défi? On a prié pour l'Église persécutée. Ça, c'est un défi que l'Église connaît, que la persécution, et en particulier dans certains pays. Et souvent, le défi qui se pose, c'est mais comment déjà je vais tenir dans la foi? Comment je vais tenir avec Dieu? Comment je vais survivre déjà physiquement? Comment ça va tenir dans ma famille? Comment ma famille va s'en sortir? Le défi aussi de le Seigneur touche les personnes qui les persécuteurs. Voilà, autant de choses. Comment je vais arriver au bout? Et quand on connaît Dieu, quand on a Dieu dans notre vie, la question qui se pose en particulier, et ça sera le titre de ce message, c'est quelle place pour Dieu dans nos projets et nos défis? Quelle est la place de Dieu dans tes projets, dans tes défis? Quelle est la place de ma vie spirituelle dans mes projets et mes défis, dans nos projets et nos défis? Je voudrais m'appuyer sur un texte sur lequel j'avais terminé la prédication la dernière fois, qui parle d'un projet du peuple d'Israël, qui se retrouve aux portes, pas loin en tout cas, de la terre de Canaan, de la terre promise. Ils en sont tout proches. Livre Nombre, chapitre 13, les versets 1. Donc je commence la lecture au verset 1 jusqu'au verset 25. L'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Et de nouveau, je vous fais grâce de tous les noms. Et je vais au verset 17. Moïse envoya donc tous ces hommes explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais. Quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins, c'est pour ça qu'il leur dit cela. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Ahiman, Shéchaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Tsoan en Égypte. C'est dire que c'était vraiment une grosse ville. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit « vallée d'Eshkol » à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin au travers de ce texte, de cette parole ? Lui qui est la parole. Dans la parole de Dieu, il y a des principes de vie. Il y a des principes de vie de Dieu. Et Dieu nous donne cela pour conduire nos vies. Il y a des principes de Dieu pour conduire un projet, pour conduire un défi, pour lutter face à un défi qui se présente dans nos vies. Et on va voir ensemble, c'est quoi la stratégie de Dieu ? Tu peux le mettre. C'est quoi la stratégie de Dieu ? Alors, en tout cas, dans ce texte-là, c'est quoi la stratégie de Dieu qui va m'aider, moi, à conduire ma vie selon ses principes. Parce que Dieu, c'est un stratège. Dieu, il est réfléchi, il est avisé. La terre de Canaan, c'est lui qui l'a créée, comme il a créé tout le reste du monde. Donc, c'est le mieux placé pour savoir par où il faut passer. C'est le mieux placé pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut observer et comment s'y prendre. Là, c'est quoi le projet du peuple d'Israël ? Ce n'est pas encore la conquête de Canaan, mais c'est se préparer à cette conquête. C'est aller explorer ce pays. Alors, quelle va être la stratégie ? Comment est-ce que Dieu va les conduire ? Qu'est-ce qui est sur le cœur de Dieu ? Quels sont les principes qu'on va pouvoir appliquer dans nos projets, nos défis à nous ? Il y a trois temps dans ce texte, trois principes que j'aimerais relever. Alors je l'ai intitulé comme ça, il y a d'abord le temps de l'écoute, il y a le temps de l'action. Et il y a le temps de la confiance. Voilà en tout cas, moi, ce que le Seigneur me révèle dans cette parole. Le temps de l'écoute. C'est ce qu'on voit au premier verset du texte, du chapitre, au verset 1 et 2, où il est dit, l'Éternel parla à Moïse. En fait, là, il parla à Moïse et puis il lui dit, du coup, tout ce que Moïse va devoir faire pour rentrer dans ce projet, pour mener à bien ce projet de la préparation de la conquête de Canaan, la conquête de la terre promise. Et on voit toutes les directives qu'il lui donne. Alors, on ne voit pas le temps où Moïse, qu'il a passé avec Dieu, on voit le résultat de cette étape, on voit le résultat de ce temps d'écoute. Ce temps d'écoute, c'est le temps de se rendre particulièrement présent à Dieu, d'être dans sa présence pour recevoir ce qu'il a à donner, pour recevoir ce qu'il veut nous dire. Lui, il sait comment faire les choses. La dernière fois, on ne sait pas comment Moïse s'y est pris. Le texte ne le dit pas. Mais on sait que Moïse était un homme qui prenait du temps avec Dieu. La dernière fois, on a vu ce qui s'est passé pour lui dans sa vie avec le conseil de son beau-père qui lui avait permis de réactiver le tir. Et on ne sait pas comment Moïse faisait, mais on sait qu'il le faisait. Régulièrement, c'est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Régulièrement, ça revient tout le temps de l'Exode au Deutéronome. Ça revient tout le temps. L'Éternel parla à Moïse et le dit. Donc, Moïse fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Il n'y a aucun projet, aucun défi qu'il ne vit sans se mettre à l'écoute de Dieu, sans que Dieu soit à la base, sans que sa communion avec Dieu soit à la base des projets, des défis qui se présentent. Et je vous témoignais la dernière fois de la manière dont le Seigneur me conduit à chercher sa présence, d'une manière nouvelle. Et je vous disais que Moïse, on ne sait pas trop comment il faisait. Alors moi, j'aimerais vous témoigner ce matin, vous partager une manière concrète que j'essaye d'appliquer, que j'essaye de vivre, parce que c'est vrai, chercher la présence de Dieu, il y a différentes manières qui se présentent à nous. Moi, c'est tout simplement l'application d'un principe biblique qui est que la parole est une nourriture. Que la parole, on la mange. Donc, comment est-ce qu'on la mange? Parce qu'on peut la manger comme ça, en lisant, en se gavant, et puis ça reste très superficiel. On ne rentre pas dedans. Ou on peut la manger en laissant la parole entrer en nous, en laissant Jésus entrer en nous, en assimilant Jésus. C'est alimentaire, ce que je vous dis. Alors, il y a une manière dont je fais, c'est l'application de ce principe. C'est tout simplement, donc je vais vous dire quelque chose de très concret, très basique. Et après, vous verrez dans quelle mesure vous pouvez l'appliquer dans vos vies. C'est d'abord, je prends un texte. Souvent, un texte de l'Évangile m'aide plus, mais n'importe quel texte de la Bible peut s'y prêter. Et je le lis une première fois. Et puis là, en le lisant, donc ça, c'est le temps de la lecture. Puis en le lisant, y a des choses qui me viennent. Il y a, il y a telle pensée qui vient sur ma vie ou autour d'autres choses. Tiens, ça me fait ressentir ça. Et puis, j'ai telle question qui vient. Mais pourquoi, Seigneur, tu as écrit? Parce que je parle à Dieu, du coup, à ce moment-là. C'est mieux pour être en sa présence. On n'est pas tout seul, on est avec Dieu. Alors je parle à Dieu, je dis, mais pourquoi tu as écrit ça comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire là? Puis ça me pose des questions théologiques, ça me pose des questions sur la vie. Et voilà. Et puis après, il y a le temps où je fais confiance à Dieu. C'est la troisième phase. Je reste dans le silence. Dans le silence, et là, c'est à ce moment-là que, comment dire, je fais confiance au fait que Jésus est en train de me remplir de lui, de me remplir de ce que je viens, de cette parole. Cette parole, ce n'est pas seulement un texte. La parole, elle est vivante. Et là, ça se passe deux mots. Tous mes beaux, ils sont faibles, ils sont pauvres. Mais il se passe quelque chose où, alors je suis dans le silence, ce texte que je viens de lire et de méditer, ça vient en moi. Et Jésus prend plus de place en moi. Je n'ai pas besoin de faire que de parler. Des fois, je me dis que le Seigneur, on le saoule à tout le temps lui parler peut-être. Ou bien sûr, on répand notre cœur, mais il y a des moments où, voilà, tout simplement être dans le silence et puis dans la confiance. Juste pour appuyer bibliquement ce que je suis en train de dire, Jésus, à un moment, dit aux autorités religieuses, leur dit, mais n'avez-vous pas lu dans les Écritures ? Il est en train de dire ça à des personnes qui sont des autorités religieuses, donc les Écritures, ils connaissent, hein, ils n'arrêtent pas de la lire. Puis ça fait depuis, ce sont des Juifs, ça fait des siècles qu'ils lisent les Écritures. Mais pourquoi il leur dit ça ? N'avez-vous pas lu dans les Écritures ? Ça fait des siècles qu'ils lisent les Écritures, ce sont des autorités religieuses, et ils passent à côté du Messie. Ils passent à côté du Messie. Alors que le Messie, il en est question justement dans les Écritures. C'est complètement fou ça. Comment est-ce qu'ils lisent ? Jésus est en train de parler de la profondeur de leur lecture. Est-ce qu'ils laissent entrer la parole qui est Jésus dans leur cœur, à l'intérieur ? Voilà, c'était pour vous donner un exemple de quelque chose de concret. Il y a des personnes qui parlent de Lectio Divina, et on trouve des choses aussi dans la tradition juive. Tout ça, finalement, ça parle de différentes manières d'accueillir Dieu, d'accueillir sa parole. Mais là, il y a quelque chose de... Moi, je fais ça depuis peu de temps, et je vois déjà des choses changer en moi. Je vois des peurs qui s'en vont. Parce que finalement, j'ai été créé à l'image de Jésus. Je suis esprit à mes corps. Mais comment est-ce que je vis cette dimension de l'esprit, vraiment, concrètement ? Et je vois des addictions ou des restes d'addictions qui pouvaient être dans ma vie qui sont tout simplement en train de partir. Parce que je suis en train de me remplir de Jésus. Alors, je n'ai pas besoin de me remplir d'autre chose. Il devient premier. Voilà pour vous. Alors, je ne sais pas comment Moïse, lui, il faisait. Mais voilà un temps de pratique de la présence de Dieu. Une manière de pratiquer la présence de Dieu. Et puis, on arrive à ce temps de l'action. Ce temps de l'action où, du coup, on voit Moïse qui se met à appliquer les directives qu'il a reçues de Dieu. D'abord, il choisit des personnes qualifiées, comme Dieu lui a dit. Et c'est Dieu qui lui a dit qui choisir. Il en choisit 12. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Oui. Exactement. Oui, tout à fait, c'est ça. Tu suis, c'est bien. Il en choisit 12. Il choisit les hommes que Dieu lui a donnés. Le nom des hommes qu'il lui a dit. S'il n'avait pas pris ce temps de recevoir, de se remplir, d'être habité de Dieu, il n'aurait pas reçu cela. Donc il reçoit, comment faire ? Lever des hommes, et puis... Il reçoit exactement ce que ces hommes vont devoir faire. Ils vont devoir entrer par tel endroit sur la terre de Canaan. Ils vont devoir regarder les villes, si elles sont fortifiées ou pas. Ils vont devoir regarder les personnes qui y vivent, est-ce qu'ils sont forts ou pas. La richesse du pays, qu'est-ce qui pousse là-bas? Ça, c'est le temps de l'action. Et c'est ce qu'il fait. Il envoie ses hommes, il leur donne ses directives, et ses hommes partent. Et ce temps de l'action, il y a un principe qui ressort, c'est dans quelle mesure je vis les défis, les projets qui se présentent dans ma vie, seul, ou est-ce que je compte sur d'autres? C'est ce que fait Moïse. Il n'y va pas tout seul. D'ailleurs, dans quelle mesure il est qualifié? Il a 80 ans à ce moment-là. Et c'est plutôt quelque chose de physique. Alors, il envoie des hommes qui ont les compétences physiques pour. Il s'appuie sur des personnes qualifiées. Il ne reste pas seul. Il compte sur les autres. Et ça, c'est valable finalement pour tout ce que l'on vit. Les projets, les défis dans lesquels tu te retrouves, pourquoi ils sont là? Comment Dieu il veut s'en servir? Je pense à, par exemple, à un moment, on a vécu quelque chose avec Thibaut. Thibaut était parti en camp de ski. Il était parti en camp de ski et il n'avait pas, deux fois de suite, il n'avait pas écouté jusqu'au bout les consignes du moniteur qui devait les faire skier. Alors, il s'était retrouvé en hors-piste. et du coup, ça n'a pas plu au moniteur qui a cru que Thibaut, il en faisait qu'à sa tête, quoi. Il ne l'écoutait pas. Et donc, du coup, Thibaut a failli être retiré du camp. Et la nuit qui a suivi, moi, j'ai eu un rêve. J'ai eu plutôt un cauchemar. J'ai cauchemardé que Thibaut était en vélo. Il se faisait renverser et tuer par un camion. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Pour moi, c'était vraiment un avertissement. Là, le Seigneur était en train de me dire quelque chose de fort. Alors, bien sûr, je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait comme père? J'ai pas fait tout ce qu'il fallait et je l'ai pas éduqué comme j'aurais dû. Et puis, du coup, il a pas écouté. Bon. Et puis, ce que j'ai fait, on a consulté une personne qui a certaines connaissances sur les enfants, une personne du champ psy qui a certaines connaissances sur les enfants. Et tout simplement, ce qu'il nous a montré, c'est que, s'il nous a fait comprendre, c'est que déjà, Thibaut, il a tellement besoin d'être sûr de lui qu'il ne va pas écouter tout ce qu'on lui dit jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il est comme dans des idées préconçues qu'il sait déjà. Et ça, il est fait comme ça. Donc ça ne sert à rien de se dire qu'il ne veut pas entendre. Et puis, il nous a dit une autre chose, parce que jusqu'à ce moment-là, Thibaut, c'était toujours difficile pour lui à l'école. Tous les débuts d'année, on rencontrait les profs. Et en fait, on s'est rendu compte... Quand on a expliqué à cette personne comment il fonctionnait, comment ça se passait à l'école, alors on pensait qu'il avait des difficultés de concentration, d'attention, et en fait, c'était autre chose. On s'est rendu compte que Thibaut, il apprenait pas comme les autres. La plupart des enfants, la plupart d'entre nous, on apprend de manière visuelle ou de manière auditive, et le système scolaire, il est construit là-dessus. Mais il y a là des personnes qui apprennent de manière, on appelle ça kinesthésique, avec leur corps, en bougeant, en touchant. Et dès qu'on s'est rendu compte de cela, du coup, ça a tout changé pour Thibaut. Voilà, quand il écoute quelque chose, on lui met une main sur l'épaule. Et puis du coup, ça rentre. Mais tout ça, et ça a été l'occasion de témoignage aussi auprès des profs, parce que du coup, voilà, ils ont pu voir aussi. Alors, j'ai pas eu l'occasion de parler directement de l'Évangile, mais ils ont pu voir aussi comment l'attention qu'on avait pour Thibaut, et ça témoigne aussi de ce que Dieu y met dans notre cœur pour notre fils, pour nos enfants. Et tout ça pour dire que voilà, on s'est appuyé sur une personne qualifiée. On n'est pas resté seul. Là, c'était le chemin de Dieu. Et tu peux être aussi dans un projet de maladie, dans un défi du fait de la maladie, et ton projet, c'est de guérir ou d'aller mieux. Le fait est qu'on a un esprit, on a un corps, on a une âme. Et ça peut être le chemin de faire confiance à ce qu'à un moment, ce que le médecin dit. Bien sûr, il faut rester vigilant, mais il y a la réalité de notre corps. Il y a la réalité de nos émotions. Et bien sûr, ça n'enlève pas la réalité de la prière. Donc savoir compter sur les personnes qualifiées, savoir compter sur les autres. Finalement, tous ces projets que l'on vit, à quoi ça sert pour Dieu? Pourquoi il nous fait entrer dans telle ou telle chose? C'est tout simplement que c'est l'occasion justement qu'il touche des personnes au travers de ce que nous vivons. Et c'est l'occasion qu'il rencontre des personnes. Ça s'inscrit dans un projet qui est plus grand que le sien, qui est plus grand que notre projet et qui est le sien. Ça, c'était pour le temps de l'action. Peut-être juste que ce que je peux, si juste terminer par cela. À un moment, Jésus, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais des trésors dans le ciel. Et finalement, tous ces projets et ces défis vont être l'occasion d'amasser des trésors dans le ciel. Et notamment, s'il y a dans ces trésors dans le ciel, c'est tout le bien que l'on va apporter dans les relations que l'on va avoir, qui vont nous aider à mener à bien ce projet, qui vont nous soutenir, et tout le bien qu'on va ressortir de ces relations-là. Et c'est avec ça qu'on ira dans l'éternité. C'est pas avec les biens matériels, ça on le sait. Et c'est avec ça. Et ces projets et ces défis sont l'occasion de cela. On les vit pas pour rien. Et enfin, vient le temps de la confiance. À partir du verset 21. On voit tout ce que ces hommes ils font. On voit qu'ils suivent les directives de Moïse. Pourquoi est-ce qu'ils les suivent? C'est parce qu'ils savent vraiment que ça vient de Dieu. C'est parce qu'ils ont choisi de faire confiance. Ils ont choisi de faire confiance. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? On ne sait pas ce qu'il fait. Mais ça, c'est le silence du texte. Mais quand on voit que Moïse, le temps qu'il passait dans la présence de Dieu, l'attitude dans laquelle il s'efforçait d'être, l'état d'esprit dans lequel il était, quand c'est continuellement marqué « L'Éternel parla à Moïse et dit », moi je me dis que Moïse, tout simplement, ce qu'il était en train de faire, il était en train de prier. Il était en train de prier pour ses hommes. Il était toujours dans le projet. Il était toujours dans le défi. Toujours avec ses hommes qu'il a envoyés. Il ne les a pas envoyés et puis hop, ça c'est fini. Non, il était toujours avec eux. Et là, c'est le temps de la confiance. Il choisit de faire confiance à Dieu pour qu'il les protège, pour qu'il les garde, pour que ces hommes restent fidèles aussi, jusqu'au bout, à ce qu'il leur a communiqué. Il choisit d'être confiant en Dieu, qui est là. Dans quelle mesure ce projet, ce défi, ou la stratégie que Dieu il m'a donnée, les indications qu'il m'a données pour mener à bien les choses qui se présentent dans ma vie, je reste dans la confiance. En fait, cette confiance, c'est une manière de continuer, de pratiquer cette présence de Dieu. Parce que la pratique de pratiquer la présence de Dieu, c'est pas seulement le temps qu'on passe. C'est aussi l'état d'esprit dans lequel on est. C'est l'attitude de cœur que l'on a. l'attitude de confiance. Moïse fait ce choix parce qu'il a compris une chose. Il a compris que le respect de cette stratégie de Dieu jusqu'au bout, c'est la préparation pour l'étape suivante, pour le projet suivant, qui est la conquête de Canaan. Effectivement, il faut bien savoir de ce qui se passe dans ce pays. Il ne s'agit pas d'y aller comme ça. Ça aussi, ça nous aide à faire confiance. De se dire, mais ce que je vis, le défi face auquel je me trouve, il sert à quelque chose. Il me prépare à l'étape suivante. Je ne sais pas quelle est l'étape suivante, forcément. Mais il me prépare à l'étape suivante. Il me prépare à quelque chose que Dieu sait. Dans quelle mesure je lui fais confiance ? C'est pas évident de se faire confiance. C'est pas évident de se faire confiance. C'est un apprentissage de se faire confiance. En particulier dans l'Église. C'est pas évident de se faire confiance. Pourquoi c'est pas évident de se faire confiance ? Parce qu'on sait pas tout. Moïse, il sait pas tout de ces hommes. Il n'est pas à l'intérieur de leur cœur. Il ne sait pas comment, il sait pas comment ils vont faire sur le terrain. Alors, il a choisi des personnes qualifiées que Dieu lui a données. Mais il ne sait pas tout concernant ces hommes. Dieu, il connaît toute la réalité, il voit tout. Moïse, il ne sait pas. Et de la même manière, ces hommes, ils ne savent pas tout de Moïse. Ces hommes, ils ne savent pas comment Moïse y vit, qu'est-ce qu'il vit exactement avec Dieu dans ces temps avec lui. Mais ils choisissent de faire confiance. De la même manière, dans l'Église, il y a des directions qui se prennent, il y a des choix qui se font. On ne peut pas tout comprendre. À un moment, voilà, on a le choix de faire confiance. Et c'est la confiance qui va nous relier. Pourquoi ? Ça fait partie de nos vies. On ne peut pas se comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu, il a choisi de créer un homme et une femme qui sont différents, qui fonctionnent différemment, puis du coup, qui ne peuvent pas toujours se comprendre ? Pourquoi il a fait ce choix ? C'est tout simplement pour qu'on s'aime. C'est pour s'aimer. C'est pour se faire confiance. C'est pour cela qu'on peut pas, on sait pas tout de l'autre et on peut pas tout comprendre. C'est parce que ça laisse la place à l'amour. Ça laisse la place à la confiance. Et ça fait partie de cette stratégie de Dieu pour vivre les projets et les défis qui se présentent à nous. Alors, où est-ce qu'on est dans l'application de ces principes ? Je sais pas dans quelle mesure ce message vous rejoint. J'espère que c'est le cas. Je laisse là à Dieu. Mais peut-être qu'on peut prendre juste 20 secondes où on pense, laisser le Seigneur vous dire, monter à votre cœur, c'est quoi tes projets ? Les projets que tu as en ce moment ? C'est quoi les projets que Dieu y met sur ton cœur ? C'est quoi les défis auxquels tu fais face ? Juste, on prend quelques secondes et on laisse le Seigneur nous montrer. Et maintenant, dans les projets, les défis qui sont les miens, quelle place je laisse à Dieu ? Il est à quel rang ? Est-ce qu'il est à la base ? Quelle place il prend ? Quelle place ma communion avec Dieu est là dans les décisions que je prends, dans la manière dont je mène ces projets, dont je fais face à ces défis dans ma vie. Pourquoi c'est si important ? Pourquoi c'est si important ? Parce que la clé pour avancer, c'est la présence de Dieu. La clé pour avancer, c'est la présence de Dieu. Quelle place la vie spirituelle prend ? Quelle place Dieu y prend ? dans la manière dont je conduis ma vie sur ces points précis qui sont venus là. On est comme Canaan. Nous sommes comme Canaan. Nous, individuellement, puis aussi l'Église, nous sommes des territoires occupés, plus ou moins. Nous sommes des territoires occupés. Jésus n'est pas encore revenu et on n'est pas parfait, on est d'accord ? Il y a l'orgueil, il y a l'incrédulité, il y a la peur, il peut y avoir l'amertume, différentes choses comme ça qui occupent la terre que nous sommes. Mais Canaan, ça veut dire quoi ? Canaan, c'est la terre humble. Canaan, c'est la terre humble. Nous sommes destinés à devenir des terres humbles. Des terres qui sont dépouillées de l'orgueil, dépouillées de l'amertume, nettoyées de la peur, nettoyées de l'incrédulité, ou en tout cas plus sous le pouvoir de ces choses-là, qui sont spirituelles. Qui sont spirituelles. C'est pour cela que la clé, c'est la présence de Dieu, parce que le combat se mène d'abord dans l'invisible. C'est ce qu'on a dit depuis ce matin. Et si je ne laisse pas la place à la présence de Dieu, et je n'ai jamais fini de laisser la place à la présence de Dieu, je vais me fatiguer, je vais être écrasé, je vais être paralysé, je vais me dire, mais ces projets, mais ce n'est pas possible, c'est trop fort pour moi, je n'y arriverai pas. Ou ces défis, mais non, je ne pourrais pas, je préfère abandonner. Ou alors je vais essayer de tout planifier à outrance. Et puis voilà, je suis. Mais d'une manière où finalement c'est pour me sécuriser moi. Je suis dans une sorte d'hyper-contrôle. Mais il y a une troisième voie. Il y a la place pour la présence de Dieu. Et quand je laisse la place pour la présence de Dieu, sans savoir exactement ce qu'il fait, moi, je ne sais pas exactement ce qu'il fait quand je suis dans le silence avec lui, mais j'ai confiance qu'il fait quelque chose. Ou en tout cas, quand je me mets particulièrement dans sa présence, quand je me rends attentif à sa présence, d'une manière ou d'une autre. Mais je sais qu'il agit dans l'invisible. Je sais que c'est il y a la victoire. Ça remporte une partie du combat. Tout n'a pas à être mené dans le visible. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu a fait de nous des êtres spirituels. Alors qu'est-ce que je fais de cela ? Qu'est-ce que je fais de cela ? Concrètement, quelle place je laisse à Dieu dans ma vie ? Concrètement, quelle place ? Et si nous voulons avancer en Église, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. L'Église, c'est une terre de Canaan. C'est un territoire qui est occupé par diverses choses. Il y a des tensions, il y a des choses que l'on ne comprend pas. Voilà, on n'est pas toujours dans l'unité totale la plus parfaite. On a à y travailler. On a travaillé à la confiance entre nous. Et cela... Alors on peut faire de la psycho et puis essayer c'est pas mauvais en soi, mais la clé, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est lui qui va faire avancer les choses concrètement. Alors que le Seigneur et que son enseignement, que celui qui laisse sa personne prenne toujours plus de place dans tes projets, dans tes défis. Que ce soit individuel, que ce soit communautaire, pour que ceci soit l'occasion de connaître encore plus Dieu et de lui laisser encore plus de place. Parce qu'il y a un projet beaucoup plus grand. Il y a un projet beaucoup plus grand qui est de te transformer, de te changer, de nous transformer, de nous changer et de toucher au travers de nous des personnes, au travers du fait que nous sommes changés, transformés par lui, de toucher concrètement des personnes. Il les touche comment ? En se révélant. Et ça, ce sont des choses spirituelles. Mais si je ne suis pas habité de la vie de Dieu, je vais y aller humainement, charnellement.
Je vais m'arrêter là.
On va... Voilà ce qu'on va faire. On va prendre le temps juste de prier en petit groupe et juste de s'encourager dans cette recherche de la présence de Dieu. Que je bénisse mon frère, ma sœur, dans cette recherche de la présence de Dieu, dans la place qu'il peut donner à la présence de Dieu. Tous, on va dire fort au Seigneur que nous voulons sa présence, nous voulons plus de lui. Nous nous attendons à plus de lui. Je veux plus de toi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Amen. Alors prenons juste, vous pouvez prier à côté avec les personnes qui sont à côté de vous, à deux, à trois. Les personnes qui ne sont pas à l'aise, vous préférez pas, vous pouvez rester de votre côté.